Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints en direct de Quai du Polar, la 20e édition pour la Web TV de Bipolar. Chaque année, on est au rendez-vous. On est à la FNAC Bellecour en public avec vous. Tout le week-end, on aura une programmation. Hein, vous pouvez venir, c'est gratuit. Et puis, c'est encore mieux quand c'est avec vous et qu'on n'est pas tout seul. Pour ce premier entretien, on a le bonheur de recevoir Momalo. Momalo, bonjour.
Bonjour.
Et on va parler ensemble de votre dernier roman à la Martinière qui s'appelle L'Inuit. Vous nous emmenez une nouvelle fois sur les terres glacées du Groenland. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est née l'idée de ce nouveau roman, de ces nouveaux personnages, parce qu'il y a eu un petit changement et de ce coin-là.
Oui, il y a eu un changement de casting.
Bah ouais, complètement. Ouais.
En l'occurrence, ils ont fait grève, hein, mes personnages. Ils en avaient marre. Ça fait 4 tomes que je les baladais. Je les faisais tomber dans des trous dans la glace. Je les noyais. Je faisais tomber des hélicos. Enfin bref, ils n'en pouvaient plus. Donc ils ont fait grève. Ils m'ont dit t'es gentil, tu vas t'en trouver d'autres. Là, tu nous mets au repos quelque temps. Non, blague à part, le projet est venu de ce dossier qui est un vieux dossier sensible. On va dire, entre le Danemark et le Groenland. Comme chacun le sait peut-être ici, le Groenland appartient au Danemark encore. Le Groenland est un territoire autonome, mais il n'est pas indépendant. Il a longtemps été une colonie, il ne l'est plus depuis 1953, et il a vraiment gagné son autonomie en 1979, mais voilà, ça fait encore partie du Danemark. En l'occurrence, ça fait 3 siècles. Hein. Ouais. L'arrivée des Danois, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais l'arrivée des Danois, c'est 1721 à peu près. Donc ça fait 3 siècles qu'eux se sentent colonisés, en fait. C'était mon point, c'est que, en l'occurrence, ça ne se fait pas sans heurts. Alors c'est un pays, c'est un peuple extrêmement pacifique, hein, les Inuits en général, et du Groenland en particulier. Donc ils ne sont jamais rebellés comme des dingues contre l'occupation, mais il n'empêche que c'est très pesant pour eux ça a été émaillé ces relations de quelques scandales et celui que je pointe effectivement du doigt dans l'Inuit est un scandale qui est vieux de 70 ans puisqu'en 51, alors j'essaie de pas trop spoiler, mais il faut quand même donner cette info là parce qu'elle est capitale. En 1951, c'est l'après-guerre, les Américains, les Alliés en lumière générale mettent la pression sur certains d'autres pays alliés pour qu'en gros ils se mettent à niveau, en standards sociétaux, on va dire, en termes d'éducation, etc., de soins médicaux, etc. Il y a quelques bases militaires américaines qui s'installent au Groenland, notamment la fameuse base de Thule que beaucoup de gens connaissent. Ils se rendent compte, les Américains, que en l'occurrence, les Groenlandais, c'est pas ça, quoi, en termes d'éducation. Voilà. Et donc, en gros, ils mettent la pression sur les Danois. Et au tout début des années 50, le gouvernement danois décide de faire ce qu'ils appellent une expérience, voilà, qu'ils ont après prolongée, malheureusement. Ils prennent 22 gamins dans des différentes petites localités groenlandaises et ils les exportent, ils les trimballent jusqu'au Danemark, où ils sont placés dans des familles d'accueil pendant quand même un an et demi. Ce qui est très long, hein, c'est des gamins qui ont entre 4-5 ans et, pour les plus âgés, de mémoire, 12-13 ans. Ils passent un an et demi. Le problème, c'est qu'ils sont complètement déracinés. Et que quand ils reviennent, alors on leur a vendu ça comme une chance, évidemment, hein, une chance éducative, qu'ils allaient vivre dans une espèce de paradis. J'en parle dans le bouquin, on leur a promis le paradis. Alors oui, certes, ils n'ont jamais vu d'insectes, hein, ils n'ont jamais vu de fraises dans les bosquets, ils n'ont jamais vu tout ça, d'arbres, ne serait-ce que ça. Il n'y a quasiment pas d'arbres au Groenland, donc ils découvrent un pays qui est un peu un pays de cocagne. Sauf que quand ils reviennent un an et demi plus tard au Groenland, c'est le drame, parce que d'une part, leur famille. Alors, la condition de départ des gamins était qu'ils soient soi-disant orphelins. Sauf que la plupart n'étaient orphelins que d'un seul des deux parents, voire pas. Ils étaient juste pris dans des familles très défavorisées. Et quand ils reviennent, les familles, d'une part, les rejettent. Et pour une raison toute simple, c'est que les gamins ne parlent quasiment plus un mot de groenlandais. Ils ne parlent plus que danois. On leur a parlé que danois pendant un an et demi. Ils ont été littéralement acculturés. Et donc la regreffe, j'allais dire, au retour dans le pays, se fait pas bien du tout, quoi. Ils sont rejetés ça dessine malheureusement des destins assez dramatiques dans la plupart des cas. C'est que sur les 22, il n'y en a plus que 6 survivants de mémoire aujourd'hui. Et tous les autres sont devenus alcooliques, toxicomanes, sont suicidés, etc. Et ça n'a été malheureusement qu'un galop d'essai, entre guillemets. C'est qu'au-delà de ces fameux 22, il y a eu dans les années après 60, enfin jusqu'au milieu des années 60, à peu près 1500 gamins qui ont été, alors, dans des conditions un peu moins rigides, on va dire, mais il n'empêche. Et donc les fameux 22, ceux qui sont sur les 22, il y en a 16 qui sont rentrés en 52, enfin fin 52 au Groenland, et ils ont été mis dans un orphelinat. Donc comme leur famille n'en voulait plus, ils ont été mis dans un orphelinat à Nuuk, la capitale, sans plus de contact avec leur famille d'origine. Quoi.
Et il y a la question des six restants, ça rappelle pas mal d'histoires hein, au Canada.
Malheureusement, c'est pas un fait isolé, mais ça illustre vraiment ce qu'était, dans ces années-là, d'après-guerre, la position, l'attitude des pays colonisateurs, on va dire, dans des territoires occupés, il faut dire ça comme ça, avec les populations autochtones qui occupaient les dix territoires. Quoi. Mmh. On les considérait comme des bons sauvages qui avaient urgemment besoin d'être rééduqués, hein, d'être mis à niveau. Et on ne s'embarrassait pas trop de tact, on va dire, dans la manière de le faire. Quoi.
Ouais, ça sent mauvais la colonisation. Quoi, hein.
C'est ça, c'est ça. Et je dirais même que, sans m'envoyer des fleurs, parce que ce n'est pas le propos, mais en l'occurrence, le fait même que moi, auteur français, j'allais dire petit auteur français, dans son coin, qui s'est intéressé au Groenland, comme vous le savez depuis pas mal d'années, se saisisse de ce sujet sous la forme d'un roman, c'est en soi... une première, je veux dire par là que aucun auteur danois n'avait fait. Il y a des documents, bien sûr. J'en cite certains dans mon roman, mais il n'y avait pas un roman qui vraiment prenait à bras le corps ce dossier. Voilà, il faut, je le précise aussi dans le bouquin. Je ne vais pas faire un cours d'histoire là-dessus aussi, mais les excuses officielles du Danemark sont extrêmement récentes. C'est 2020, donc c'est quasiment 70 ans après les faits, quoi. Donc ça a été très tardif et puis ça a été un peu indigent dans tous les sens du terme. C'est que les quelques survivants ont reçu quelques milliers d'euros. Moi, j'avais fait le calcul, j'avais rapporté ça par rapport au nombre d'années écoulées depuis les fêtes. Ça faisait que par année, ils avaient reçu moins que les minimaux sociaux danois, quoi. Comme dédommagement. Donc c'est juste une blague, c'est une injure, quoi. Fait à la douleur que ces gens-là ont vécu et enduré.
Ça, c'est la première trame de votre roman, mais il y en a une deuxième.
C'est un toile de fond. Ouais,
exactement.
Désolé, ça faisait peut-être un peu chiant comme ça, mais je vous rassure, c'est un polar. Donc ça commence comme un polar.
Il y a un vrai meurtre.
Il y a des vrais meurtres, c'est ça. Voilà. On est dans un polar. Donc ça commence effectivement dans un tout petit village où je suis allé, qui s'appelle Kuchlorsvark, à vos souhaits. Généralement, on répond parce que voilà, les noms groenlandais sont un peu compliqués à prononcer, qui est dans la baie de Melville, où je suis allé passer à peu près un mois il y a un an. Et donc est retrouvée une jeune femme qui vient d'accoucher, qui est très jeune. Les Groenlandaises ont souvent des enfants jeunes, voilà. Et elle a 15 ans, elle vient d'accoucher, et juste après son accouchement, son bébé à peine retiré de son sein, elle a été égorgée. Voilà. Donc l'enquête commence comme ça, on se rend compte que ce crime a peut-être en résonance avec un autre crime qui a eu lieu 9 mois plus tôt, et au même moment à Copenhague, un flic un peu gratte-papier, quoi, qui n'est pas vraiment un flic de terrain, à qui on a confié justement les cold cases, rouvre un vieux dossier, qui, en l'occurrence, met en scène un ancien dignitaire de la Croix-Rouge danoise, qui lui-même, qui était déjà très 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 âgé, il avait 95 ans, a été tué dans des circonstances assez troubles à Copenhague 10 ans plus tôt. Voilà. Et il se trouve que 10 ans plus tôt, c'est-à-dire par rapport à ma chronologie, dans les années 2010, c'est le moment où ce dossier, alors que donc là, il n'y avait pas encore eu les excuses officielles, ce dossier des fameux 22 et de l'expérience, commençait à être exposé à l'opinion publique et danoise et groenlandaise. Voilà. Et donc voilà, donc ces trois trames vont se télescoper de manière un peu brutale, un peu échevelée sur le territoire groenlandais, parce qu'il y a un peu une espèce de course-poursuite. Et puis il y a une notion très importante, et je commence le bouquin par ça, c'est peut-être, désolé si je démine, si je crame des questions avant même qu'elles soient posées, qui est la notion d'identité. C'est que au Groenland, et dans les cultures inuites en général, qu'elles soient canadiennes, russes ou groenlandaises, les noms, ce qu'ils appellent l'atek, c'est-à-dire une espèce de nom-âme, peut être transmis à un enfant indifféremment de son sexe. C'est-à-dire que quand un ancien meurt et qu'il y a un nouveau-né quelques semaines ou quelques mois plus tard qui naît, on lui transmet volontiers le nom de l'aïeul en question. Mais si c'est un aïeul femme qui est morte et que le bébé est un garçon, c'est pas grave, on lui donne le nom en question. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de transmission de ces noms-âmes qui est extrêmement forte. Et j'en dis pas plus parce que c'est vraiment au cœur de l'intrigue et de ses révélations. Et
au cœur aussi, il y a un personnage mystérieux qu'on appelle l'Inuit qui donne son titre au roman. Une sage-femme qui passe de village en village pour
c'est
aider
ça, parce
les,
que le
les femmes à accoucher.
Le système de santé au Groenland est compliqué parce que sur un pays aussi étendu, vous l'avez compris, il est aussi dur d'accès dans les petits villages. Quand une femme est enceinte, ce qu'elle faisait... ce qu'elle fait encore aujourd'hui le plus clair du temps, c'est que des mois avant son accouchement, elle anticipe et elle va dans l'une des deux grandes villes, Nuuk ou Ilulissat, elle se fait héberger par qui elle peut, la famille, etc., en prévision de l'accouchement. Parce que si elle est coincée dans son village de 50, 100, 200, 400 habitants et que personne ne peut l'accoucher, comment elle fait, quoi ? Donc, en l'occurrence, c'est ce qui se fait. Et il y a de temps en temps, effectivement, des compétences de sage-femme qui se baladent un peu de village en village. Moi, j'ai un peu accentué et forcé le trait du personnage. Mais cette fonction de ce que j'appelle de sanagi, hein, de femme, sage-femme inuite, est une fonction traditionnelle dans les anciennes communautés inuites avérées. Voilà.
Vous avez écrit d'autres romans sur la Bretagne, là, c'est sur le Groenland. Qu'est-ce qui est le plus plaisant ? L'intrigue, les personnages ou transmettre les traditions et l'ambiance du pays ?
C'est un peu tout ça, parce que je pense que tout est lié. Enfin, j'espère que si j'ai fait correctement mon boulot, tout est lié. Que c'est à travers les personnages et leur destin qu'effectivement, on touche du doigt ces traditions et la manière dont elles survivent, ou au contraire, la manière dont elles sont attaquées. Parce que vous imaginez bien, je parlais de la colonisation, qu'un pays qui est occupé par une puissance étrangère occidentale, ça met à mal ces traditions, nécessairement. Mais c'est vrai que les Inuits groenlandais sont quand même encore plus, à ma connaissance, que les Inuits canadiens, farouchement attachés à leurs traditions et cherchent à les maintenir au maximum. C'est aidé aussi par une réalité qui est purement géo-économique, j'allais dire, qui est que, hormis la capitale, qui effectivement est assez importante en nombre d'habitants, c'est 18 000 de mémoire, tout le reste du pays, en termes d'implantation, c'est un mouchetis de toute petite localité, quoi. Mmh. Et dans cette petite localité, il n'y a pas 50 manières de survivre, c'est la chasse et la pêche. Voilà. La vie, enfin l'économie du Groenland, c'est à 70-75% la pêche. Voilà. Et donc quand vous vivez dans un milieu aussi hostile, aussi dur, moi je dis toujours le Groenland, hormis dans la capitale très européanisée, on n'y vit pas, on y survit, on est vraiment en mode survie permanent. Imaginez une petite localité où vous êtes enclavé, coupé du reste du monde quasiment, à part une rotation d'hélicoptère ou deux par semaine pendant 5-6 mois. Le bateau qui approvisionne en produits occidentaux, on va dire, il passe deux fois dans l'année. Et quand il est passé en novembre, le prochain, il passe en mai. Voilà. Donc dans la supérette locale, les paquets de petits gâteaux, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, donc il faut bien se nourrir de quelque chose. Donc en gros, le quelque chose, c'est la pêche et la chasse, c'est les phoques essentiellement. Hein. C'est pas pour rien que Paul Aimé Victor parlait de culture du phoque. En parlant des Inuits, c'est vraiment l'essentiel de leur alimentation, c'est le phoque. Mais tout ça, c'est dur, il faut y aller, quoi, à la pêche et à la chasse au phoque. Et donc, c'est une vie extrêmement éprouvante. Et tout ça pour dire que cette vie éprouvante, un peu coupée, hormis certains aspects, type connexion Internet, etc., de notre vie occidentale, par la force des choses, ça maintient. Ça pérennise les traditions, quoi.
Peut-être une communauté, une importance de la communauté
très très forte. Il y a moi dans le village dont je parle là, et où se situe une grosse partie de l'action, donc le fameux Couche-Lorsoir, il y a quasiment pas d'occidentaux. J'ai rencontré deux profs, un danois, une allemande d'origine. Tous les autres, c'est des Inuits pur jus, quoi.
Comment on se glisse dans la peau de personnages comme ça, non occidentaux, avec une culture si particulière pour les incarner ? Parce que sur les critiques que j'ai regardées un petit peu sur le web, c'est souvent ce qui ressort. C'est vrai qu'à la lecture, vous avez des personnages très forts qui nous habitent un petit peu longtemps.
J'ai essayé de m'imprégner des rencontres que j'ai faites. À chaque fois, je ne suis pas juste allé en touriste, entre guillemets, né au vent, et surtout pas sur les bateaux de croisière. J'ai rien contre, hein, mais c'est sûr que quand on fait le Groenland, comme on dit, en croisière à 15 000 euros, et qu'on débarque deux, trois fois, et que là aussi, on voit des populations autochtones un peu en mode beau-sauvage, c'est pas vraiment comme ça qu'on se familiarise. Moi, à chaque fois, j'y suis allé sac au dos et j'ai cherché à rencontrer le plus de personnes possibles et les plus variées possibles. J'ai rencontré le chef de la police, comme une ex-première ministre, comme le patron du musée national, comme la directrice d'un foyer pour enfants qui a sa place importante dans l'Inuit. Et toutes ces personnes-là ont chacun un peu une facette de cette population. J'ai essayé de restituer, je me suis même inspiré indirectement pour le personnage de Björn Westen, qui est le principal flic sur place à Couche-Lorsoir, que je me suis inspiré d'un copain, entre guillemets, chasseur-pêcheur, qui m'a emmené sur son traîneau, Ouli, et voilà. Donc, la question qu'on se pose aussi, c'est celle de la légitimité. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire méchante appropriation culturelle ? Et moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est oui, forcément un peu. Mais alors déjà, ce procès en appropriation culturelle est quand même un peu un pour moi un mal de l'époque. Enfin voilà, je pense pas qu'Herman Melville, quand il faisait ses bouquins, ou Conrad, machin, se posait ce genre de questions. Enfin, admettons, les temps ont changé, bien sûr. Mais la vérité, c'est que d'une part, c'est une culture complètement basée sur l'oral. C'est pas du tout une culture de l'écrit. Donc eux-mêmes, il y a très 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 peu d'auteurs groenlandais. De mémoire, le premier roman groenlandais publié, il a été en 1914.
C'est
extrêmement récent par rapport à l'histoire et leur histoire à eux qui est plurimillénaire, enfin qui a 4000 ans. Il y a très très peu d'auteurs groenlandais. Vous connaissez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être lu Homo Sapiens de Niva Kerlenussen, qui est un peu la seule auteure groenlandaise qui émerge, contemporaine qui émerge. De mémoire aussi, il y a une seule maison, toute petite maison d'édition dans la capitale au Groenland et qui publie quasiment que des beaux livres. C'est pas leur culture. Leur culture, c'est l'oral. Donc une fois de plus, si quelqu'un comme moi le fait pas, ben, il n'y a pas grand monde qui le fera. Quoi. Et je le répète, d'autant moins les Danois, que les Danois, pour eux, c'est touchy. Soit ils s'en désintéressent, parce que je le répète, pour eux, c'est lointain, sauvage, là, voilà, dans les territoires. Il faut bien le dire, hein, hormis des Danois très très éduqués, le Danois de base, pour lui, les Groenlandais, il en a la vision que nous, on avait des gens de nos colonies il y a 100 ou 150 ans. C'est vraiment ça, quoi. Donc lui, il ne le fera pas, il ne s'y intéressera pas. Et s'il le fait, il va le faire avec tellement de culpabilité. Parce que s'il est conscient de tout le mal fait aux populations autochtones, il va le faire avec une charge de culpabilité que moi, je n'ai pas. Moi, je suis neutre par rapport à ça. Donc voilà, donc je pense que ça met en un sens à ma bonne place et à ma bonne distance par rapport au sujet. Je ne suis ni effectivement groenlandais, ni danois. Je suis juste un observateur extérieur. J'essaye par le prisme du roman, bien sûr, d'être le plus neutre et le moins impliqué possible, même si évidemment je ne peux pas m'empêcher de constater que le mal ait plutôt été fait dans un sens que dans l'autre. Quoi.
Vous êtes journaliste aussi, vous avez fait des essais, ouais. Vous avez bossé la photo. Quelle est la force de la fiction pour attraper un petit peu le sujet du Groenland ?
La force, c'est que c'est peut-être de prendre le pays lui-même comme un personnage. C'est que quand moi j'ai lu des tonnes de évidemment tous les grands anciens anthropologues, ethnologues, aventuriers, les Paul-Aimé Victor, Jean Mallory, qui est décédé récemment, etc., qui ont écrit des pages magnifiques sur le Groenland et ses territoires et sur les Inuits, mais je le répète, c'était des scientifiques la plupart du temps, qui avaient une démarche scientifique et qui cherchaient à rendre compte de la manière la plus exhaustive possible de la manière dont on vit dans ces pays-là. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Moi, je ne cherche pas à faire du documentaire. Moi, je cherche à embarquer dans une intrigue, certes à faire découvrir le pays et sa culture, mais avant tout dans une intrigue policière. Et le fait de me dire que, pour prendre les choses de cette manière-là, que le pays n'était pas juste un décor, mais était un personnage parmi d'autres, pour moi, ça m'a complètement débloqué. Au début, je me suis dit, d'une part, je ne vais pas savoir comment en parler, parce qu'il faut dire, il faut révéler que le tout premier Hanak, je l'ai écrit sans y être allé. Et après, j'y suis allé. Donc, je l'ai fait le premier sûrement uniquement sur interview, documentation, etc. Donc, c'est spécial, quoi, de rendre compte d'un pays aussi singulier, parce que ça ressemble, je peux vous le dire, très souvent en salon, quand je parle avec des gens qui n'y sont pas allés, ils me disent « Ah oui, mais je sais, je suis allé en Laponie. » Non, désolé, je vous arrête, ça n'a rien à voir. Les paysages n'ont rien à voir, la culture n'a rien à voir, les rapports humains n'ont rien à voir, l'organisation de la société n'a rien à voir. C'est un pays vraiment à part, quoi. Et la culture inuite est vraiment une culture autochtone à part. Et donc, comment effectivement se mettre dans la peau de ça, et du pays, c'est le jour où je me suis dit c'est un personnage et je vais décrire notamment les paysages comme si en utilisant même des verbes d'action, etc., enfin des choses qui normalement relèvent de la description et de la mise en scène de personnages, moi-même ça m'a vraiment ouvert un chakra, on va dire, ça m'a débloqué un truc, quoi. Et pas juste me dire ouais c'est un joli décor. Alors parce que les Inuits, eux, ont une cinquantaine de mots pour décrire la glace, la neige et leurs différents états. Nous, non. Ouais, donc quand on a dit blanc, immaculé, neige, glace, iceberg, banquise, machin, on fait comment, quoi? Ça peut vite devenir très lassant, répétitif et pas très intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Mais... Ouais, tout à fait. Vous parliez des personnages, je reviens sur ce que vous disiez au début. Il y a eu 4 tomes avec Hanak, si je prononce bien. Ouais, on a un peu bossé. Quand est-ce qu'on sent que les personnages, c'est bon, il faut passer à autre chose?
Je ne dis pas que je les ai abandonnés pour toujours.
Non, bien sûr.
Peut-être que, d'ailleurs, ça m'est assez fréquemment demandé. Et alors tu, voilà. Non, ne les laisse pas en plan. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont lu savent qu'à la fin de ce mythe, il y a une fin relativement ouverte et qu'il y a matière à ce qu'ils reviennent. Mais oui, pour être honnête aussi, il y a un moment donné où on a aussi un poil envie de passer à autre chose. Puis c'est vrai que ce sujet de l'Inuit était tellement particulier, singulier, j'avais vraiment besoin de pour que mon récit tienne, d'autres personnages. J'avais notamment besoin de personnages féminins plus forts, ce qui n'était pas forcément, je l'admets, le cas dans les tomes précédents. Et j'avais besoin de d'autres personnages plus secondaire, mais qui était néanmoins très important à mon intrigue, et que j'avais pas à dispo dans la palette que des précédents. Donc ça méritait cette petite pause.
Vous avez aussi écrit La Braise Brigade. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la Bretagne est le Groenland de la France ?
Alors, il y a un petit truc, n'empêche. Ouais. Ah, pas la Bretagne, mais Saint-Malo. Parce qu'en fait, ça se passe à Saint-Malo, qui est le territoire d'origine familiale de... Il y a ma sœur dans l'assistance, alors je fais un petit clin d'œil. On est, par notre papa, on est originaire de Saint-Malo depuis 5 siècles, donc on a des ancêtres capitaine corsaire, maire de Saint-Malo en 1800, on est une vieille famille malouine. J'avais à cœur de parler de Saint-Malo depuis très longtemps, mais je ne trouvais pas la bonne formule. Et c'est vrai que le fait de le faire sous le registre de la comédie policière, ce qu'on appelle aujourd'hui du cosy, ça m'a vraiment débloqué parce que j'aurais eu un comité de vigilance absolument insupportable sur mon texte si j'avais parlé d'histoire de Saint-Malo. On m'aurait corrigé chaque ligne, notre papa, ma sœur sait de quoi je parle, aurait révisé ma copie, ça aurait été insupportable. Là, c'est de la comédie, donc finalement, je fais un peu ce que je veux, je raconte un peu ce que je veux. Je peux prendre un peu de distance. J'essaye quand même de faire découvrir des aspects de Saint-Malo un peu méconnus, j'espère, de son histoire, mais aussi de son présent. Il y a des faits d'actualité sur la politique locale, les entreprises locales, etc. Des petites pierres dans le jardin de certaines personnes. C'était l'envie de parler de Saint-Malo, mais d'une manière un poil décalée. Et pour répondre à la question, oui, les Malouins se sont toujours considérés comme à part. D'ailleurs, le titre d'un des tomes qui est la devise officieuse de Saint-Malo, c'est ni français ni breton, malouin suisse. Et il y a nous, il y a Saint-Malo, et puis il y a le reste du monde.
Clairement. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à notre auteur ? Oui, monsieur Labal. Je ne sais pas si. Oui, on a un micro. On va se balader.
Bonjour Frédéric.
Bonjour, tu vas bien ?
Oui, très bien, merci. Une petite question. La Groenland prend de plein face effectivement la problématique de changement climatique. Toi qui es allé plusieurs fois là-bas, est-ce que c'est des préoccupations est-ce que c'est des choses dont ils parlent ou est-ce que c'est complètement, mis de côté pour l'instant
Alors, ouais, ta question est super pertinente et oui et non. La réponse, elle est un peu, une réponse de Normand. Oui, évidemment qu'ils le voient, ils sont aux premières loges. Mon camarade Nicolas Dubreuil, qui est explorateur polaire, qui m'a aidé à monter mon voyage l'an dernier, m'en a parlé. Il parle de ce qu'ils appellent les nouvelles terres. C'est-à-dire qu'en 20-30 ans, ils ont vu des terres qui n'existaient pas complètement apparaître sous l'effet de la fonte des glaciers. C'est-à-dire qu'en 20 ans, des glaciers qui faisaient des centaines de mètres de haut ont complètement fondu et ont libéré des nouvelles terres. Et alors là où ça va peut-être un peu se surprendre par rapport à ta question, c'est que pour nous, en tant qu'Occidentaux, c'est perçu comme un désastre écologique, et évidemment ça l'est objectivement, même si c'est nous qui en sommes les responsables, hein, c'est pas eux avec leur industrie inexistante qui ont provoqué ça, c'est un effet du réchauffement que nous, Occidentaux, avons provoqué, mais pour eux c'est un désastre spirituel, c'est que quand les nouvelles terres se apparaissent, elle libère, selon eux, la disparition de la glace libère des esprits, ce qu'ils appellent des rivitok. Les rivitok, c'est des espèces d'esprits errants, et donc c'est mauvais. C'est en gros, ça libère de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvais esprits. Donc c'est presque plus important pour eux, de manière très immédiate, ça peut paraître très très enfantin, très naïf et très superstitieux, mais pour eux c'est plus embêtant que quand on leur pose frontalement la question, et je l'ai fait et plein de gens l'ont fait, mon camarade Nicolas aussi, leur réponse elle est on s'adaptera. Ça fait 4000 ans qu'on s'adapte au pire climat qui existe sur Terre. Ouais. On s'adaptera. Si ça change, on changera, on fera autre chose. Ils sont extrêmement pragmatiques. C'est un de leurs grands traits de caractère, c'est le pragmatisme. C'est le gage de la survie. Hein. Si dans des pays comme ça, t'es pas pragmatique au jour le jour, à chaque seconde, tu survis pas. Donc c'est voilà. Et alors, pour rejoindre le tout début off, avant qu'on commence et on parlait de l'économie du Groenland et de l'exploitation des ressources, ils sont dans une espèce de dilemme complètement cornélien, infernal. C'est que soit, et ça, tu vas voir que ça rejoint ta question et la préservation de l'environnement, c'est que soit ces ressources incroyables, alors je le dis on, c'était ouais. off tout à l'heure, il y a des ressources incroyables en pétrole, en matières rares, en terres rares, pardon, en uranium, en pierres précieuses, etc. On estime qu'il y a à peu près 12 à 13% des réserves de pétrole qui sont wow. sous le Groenland, donc c'est monstrueux, quoi. Très très dur à exploiter parce que sous la glace ou la roche, mais c'est là malgré tout. Donc soit ils le font et ils deviennent un pays richissime, mais évidemment dans le viseur des grands prédateurs économiques que sont la Chine, la Russie, les États-Unis. Soit ils ne le font pas, ils préservent leur environnement et donc ils préservent leur identité. Parce que comme tu l'as compris, pour les deux, sont complètement liés. À la base, il faut se souvenir qu'ils sont animistes. Donc eux et leur environnement, ça ne fait qu'un. C'est un seul corps. Voilà. Un seul corps naturel et social. Donc si ils font ce choix-là, ils pètent tout cet accord, ce contrat implicite entre leur environnement et eux. Et donc, il reste des vrais Inuits. Mais, et c'est là tu vas voir que le dilemme des cornéliens, c'est que si ils se lancent dans l'exploitation, ce que pour l'instant intensif, ce qu'ils n'ont pas fait, ils deviennent très riches et donc ils deviennent indépendants. Et donc, tout est lié, tout est intriqué. Et donc, pour eux, c'est infernal parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors là, ils sont dans une phase plutôt de moratoire. Ils ont dit, le gouvernement actuel est écologiste, donc il a dit, nous, on met un moratoire, ouais, on n'exploite pas, et voilà. Mais il y a bien un jour, les digues vont péter, quoi. Et quand Donald Trump, je finis là-dessus, en 2019, a dit on va peut-être racheter le Groenland, tout le monde a pris ça pour une Trumpade, c'est-à-dire une galéjade un peu idiote. C'était pas du tout idiot, en fait. Enfin, ce que lui avait soufflé ses conseillers n'était pas du tout idiot. C'était extrêmement, non seulement pertinent, mais extrêmement vorace. Ils avaient bien. Et j'en prends pour preuve que la même année, les États-Unis, qui n'avaient jamais eu de représentation officielle, ont ouvert un consulat avec 7 mecs qui étaient là pour faire du business, quoi. Donc eux, ils ont bien vu quel était leur intérêt à aller chercher là-bas, quoi.
Ouais, y a des vrais sujets d'actualité.
Mais ce pays qui est totalement méconnu et pour un nombre incalculable de sujets, une espèce de clé de l'avenir de la planète pour tout un écologique, énergétique, on l'a compris, géopolitique, parce que du coup, il attise des convoitises de toutes les grandes puissances. Enfin, c'est assez étonnant.
On a le temps peut-être pour une toute dernière question rapide. Oui. Une question familiale, donc.
Exactement, mais c'est bien, c'est les meilleurs.
Bon, bah, comme je suis dévoilée, je me permets le tu.
Vas-y, vous avez le droit.
En lisant le livre précédent sur le Groenland, ça y est, j'ai oublié.
La mélancolie de l'ours polaire.
La mélancolie de l'ours polaire, je m'exprime moins facilement que mon frère, j'ai pas l'habitude. Tu parles beaucoup de ce peuple, en fait, que tu as rencontré. Et je t'ai souvent dit que j'avais fait le rapprochement avec un peuple que moi je connais, qui est le peuple Kanak.
Kanak, mais avec un K.
Avec un K, c'est-à-dire de Nouvelle-Calédonie, où on est allé plusieurs fois. Et surtout sur l'isolement, sur la façon dont ils vivent, le fait d'être très entre eux, etc. etc. Et est-ce que par la suite, pour la lectrice que je suis, la lectrice assidue bien sûr...
elle n'a pas le choix, je précise.
J'ai pas le choix. Est-ce que... je m'excuse pour les autres auteurs qui sont là, parce que je n'ai pas le temps de les lire d'ailleurs. Et donc, est-ce que tu envisages de te tourner vers d'autres peuples?
Alors, oui,
d'autres peuplades qui peuvent aussi... les Kanaks sont des gens qui sont français. Ouais. Hein, donc
oui, c'est vrai. Je pourrais, mais figure-toi que ça avait failli être le cas, parce que quand j'ai rencontré Marie Leroy, mon éditrice chez La Martinière, au tout début, il y a maintenant 7 ans, je ne sais plus, elle m'avait un peu lancé un défi, Marie, elle m'avait dit « trouve-moi un nouveau territoire de polar ». Et je m'étais gratté la tête, et voilà. Et alors, la petite histoire, c'est que j'ai ma marraine, qui est donc notre tante, Bernadette, était allée en territoire inuit il y a à peu près à ce moment-là 45 ans, et m'avait rapporté une petite figurine de chouette arfan, dont je parle dans certains de mes bouquins, en peau de phoque. Et c'est 45 ans après, quand mon éditrice me lance ce défi, que je me dis, tiens, c'est vrai, pourquoi pas les Inuits du Groenland. Mais à l'époque, j'avais commencé à lui proposer des choses qui se passaient dans le Pacifique, ouais. Et les cultures pacifiques m'intéressent, donc je dis pas non. Mais c'est vrai que là, je me suis un peu, au départ, à corps défendant, puis maintenant complètement avec ma volonté. Enfin, je veux dire, je suis tombé amoureux de ce pays et de cette culture. Peut-être un peu élargir, c'est-à-dire parler d'autres Inuits d'ailleurs, et notamment de ceux qui sont encore plus méconnus que les Inuits du Groenland, et que du Canada, Canada anglophone, pardon, qui sont les Inuits du Canada francophone. Voilà. Tout le monde, quasiment tout le monde a entendu parler du Nunavut, qui est les territoires inuits anglophones, mais quasiment personne du Nunavik, qui est à l'extrême nord du Québec, et où il y a des Inuits. Voilà. Et alors eux, même au Québec, hein, quand tu fais un sondage au Québec, il y a même des tonnes de Québécois qui ne savent pas qu'il y a des Inuits chez eux. Quoi. Donc c'est quand même dingue. Donc ça, ça m'intéresse. Tu vois. C'est vrai qu'aller vers du déjà très documenté, c'est toujours un peu embêtant parce que tu dis que ça a été fait et refait. Voilà, c'est peuples autochtones très peu connus, ou à l'intérieur d'une grande famille qui est celle des Inuits, aller taper sur une sous-famille moins connue, ça pour le coup, ça peut m'intéresser. Mais je dis pas non, hein. Si on part ensemble en Nouvelle-Calédonie,
pourquoi pas. On n'aura pas chaud en lisant vos romans tout de suite, quoi, en tout cas. Merci beaucoup, Momalo.
Merci beaucoup.
Hein, merci à vous qui êtes avec nous. Et puis, on vous conseille donc de lire L'Inuit. Donc...
Je me permets un micro. Désolé, ouais, je suis très grossier, je coupe. Mais s'il vous plaît, lisez jusqu'à la dernière ligne. Ouais. Voilà, ceux qui ont déjà lu savent qu'il faut absolument lire jusqu'à la dernière ligne.
Voilà, vous avez le conseil. Merci à tout le monde et on se retrouve très vite avec la Web TV Bipolar. Merci.